Tech & Co, la quotidienne, le débrief de la tech.
Et pendant une heure, on décortique l'actu tech de ce mardi soir avec sur le plateau de Tech & Co. André Losgood-Pietri qui est avec nous. Salut André.
Salut François.
Merci d'être là. André qui est président du JEDI, le Joint European Disruptive Initiative. Et à tes côtés, c'est Clément David. Salut Clément.
Salut.
Le président de Théodo Cloud et Frédéric Simotel.
Salut à tous. Salut,
voilà, François. Frédéric Simotel, président de qui est journaliste à...
CNews.
Alors, non.
Pas du tout.
Avant C, il y a quoi? Il y a B, c'est ça?
BFM, président de BFM.
Incroyable. Voilà, président de BFM.
La promotion
c'est
ce
ça,
soir.
C'est ça, bien sûr, évidemment. Alors, journaliste et émérite tech dans notre belle maison. Tout va bien, Fred, ça va?
Ben, tout va bien, ben, ça, on se disait ça tout à l'heure, on a des actus qui tombent. On pourrait faire trois Tech & Co dans la journée.
Mais évidemment, alors on sera un peu fatigué à la fin,
ouais.
Surtout Clément, mais écoutez, on tient le coup.
C'est gratuit.
C'est gratuit, c'était comme ça.
Pas de problème.
On va commencer par Anthropic, qui va donc bien faire son entrée en bourse. La maison mère de l'IA Claude a envoyé son dossier à la SEC, à la SEC, le gendarme des marchés aux États-Unis. Et tout ça va très vite, hein. La semaine dernière encore, le groupe avait levé 65 milliards de dollars, de quoi frôler les 1000 milliards de valorisation. Étienne Brack nous en parlait sur BFM Business et on revient juste après sur ce plateau.
Plus que OpenAI, la maison mère de ChatGPT, car ces dernières semaines, les revenus de l'entreprise ont explosé. Hier, Anthropic, dans le dossier qu'ils ont déposé en bourse, ont annoncé réaliser 47 milliards de dollars de chiffre d'affaires sur les 12 derniers mois, contre 14 en février, d'où la valorisation qui a explosé la semaine dernière lors du dernier tour de table. Et pour répondre au contrat signé, il faut des capacités de calcul, des data centers et donc de l'argent pour financer tout cela. Ces derniers temps, ça se faisait beaucoup sur le non-coté et donc là, désormais, ça va se faire sur le marché boursier. Les banquiers, les analystes évoquent environ 65 milliards de dollars. C'est le montant qui pourrait être levé. Hier, le groupe n'a pas communiqué ce montant. Un montant qui serait donc proche des 75 milliards de dollars que compte lever Elon Musk avec SpaceX. Hein, pour rappel, le compte à rebours est en train de tourner puisque ça sera le 12 juin que SpaceX va rentrer en bourse.
Alors
tout ça est encore confidentiel, mais pas tant que ça finalement, parce que tout le monde est au courant. Ce qui est intéressant, c'est que évidemment il y a cette course aux géants de l'IA qui veulent véritablement passer l'étape supérieure et en fait se valoriser en bourse, effectivement. Et avec cette introduction, en fait, Anthropic passe devant OpenAI en termes de valo. Hein. Mm-hmm. C'est ça qui est incroyable. Je voulais avoir votre point de vue là-dessus parce que on a l'impression que il y a des mouvements de plaques tectoniques en ce moment. OpenAI était il y a encore quelques semaines le numéro un qui était indéboulonnable. On a l'impression que tout ça est en train de changer et je voulais avoir votre avis, Clément, pour commencer.
C'était les numéros. Ça fait quelques temps qu'ils ont été dépassés, notamment en termes de revenus par Anthropic. C'est ça qui est terrifiant. Il faut voir qu'Anthropic, l'année dernière, c'était en annualisé en mai de l'année dernière, 2025, c'était 9 milliards de revenus. Là, on est à 45 milliards. Donc la croissance est folle.
Ça explose.
Ça explose. Et l'idée, en fait, c'est il y a un peu cette bataille d'entrée en bourse, mais est-ce que ça vaut vraiment le coup d'être le premier? C'est la question. C'est-à-dire que d'un côté, tu te dis, t'es le premier, bah, déjà, t'aspires la liquidité. Parce que les fonds ont l'air infinis, ils le sont pas. Entre SpaceX, OpenAI et Anthropic, celui qui va arriver premier, deuxième, troisième, il y aura pas forcément les mêmes fonds disponibles.
Et puis c'est un moment où tu es bankable en plus. Anthropic a une très bonne aura.
Momentum. Ouais. Après, la question c'est, est-ce que ça vaut le coup d'être premier? C'est-à-dire que si t'es premier, la bonne nouvelle c'est que tu récupères les fonds, mais en plus tu définis un peu les règles comptables du marché, c'est-à-dire que tu dis au marché voilà les KPIs que j'ai envie de mettre en avant, voilà ce que je veux montrer aux investisseurs sur comment on calcule la valo d'une boîte IA, ce qui est absolument nouveau parce qu'on est incapable de le faire aujourd'hui. En revanche, t'es aussi le premier à montrer tes cartes. T'es aussi le premier à tester le marché sur des systèmes un peu étranges qui eux aussi n'existent que dans le monde de l'IA, du style ce qu'on appelle les compétiteurs. C'est-à-dire que OpenAI, mais Anthropic, c'est pareil, c'est Anthropic manifestement qui risque de s'y frotter en premier, va devoir défendre un modèle où quand même tes deux plus gros actionnaires sont aussi tes deux plus gros fournisseurs, les cloud providers, sont aussi tes deux plus gros compétiteurs. Donc, comment le marché va pricer ça? Si t'es premier, bah oui, il y a la liquidité, oui, tu définis un peu les règles du jeu, mais t'es Anthropic, mais OpenAI derrière va regarder en se disant, on va voir comment le marché réagit à ça. Donc la grande question, c'est est-ce que ça vaut le coup d'être premier ou pas? Ça va être la première question qu'on va se poser.
André?
Oui, la bourse, pour beaucoup de ceux qui nous regardent et pour beaucoup d'entre nous, c'est parfois, il y a un côté spéculatif, mais là, il faut aussi voir le fond quand même assoit cette IPO. C'est quand même pas une surprise pour la plupart d'entre nous. Ça fait maintenant 3-6 mois que Claude a vraiment, donc le modèle d'Anthropic a vraiment pris le dessus en termes de qualité, de résultats, de pertinence, probablement d'hallucination aussi ou de non-hallucination. Donc aujourd'hui, il profite de ça. Et donc c'est probablement ça qui explique la multiplication par 5. Enfin, ça s'est jamais vu, ça. Passer de 7, 8 à 45 milliards, c'est quand même une énorme preuve que cette fameuse bulle IA, je rappelle, il y avait plein de commentateurs, peut-être même ici autour de ce plateau, qui parlaient de bulle IA il y a 6 mois, bah, aujourd'hui, c'est quand même des revenus tangibles. Et les clients, c'est oui, il y a certes un espèce de revenu qui vient des partenaires, mais il y a quand même aussi de plus en plus d'industriels, de grandes entreprises qui utilisent massivement pour, à minima, accoutumer leur employés à l'IA. Donc c'est quand même une vraie réalité.
Il faut voir si la part du gâteau sera assez grande pour nourrir tout le monde.
Donc là, il y a cette chose-là. Et l'autre chose, rappelez-vous, hier, on a célébré en France les 75 milliards d'investissements de SoftBank sur 5 ans sur des data centers. Je rappelle quand même que les grandes LaTeX américaines, cette année, vont mettre 750 milliards ou 725. Donc, c'est à peu près...
Google a annoncé une levée de 80 milliards
pour financer ce matin essentiellement ces data centers. Samsung, en parallèle, distribue 300 000 dollars à chacun de ses employés. C'est 6 fois le salaire annuel.
À 50 000 employés, je crois, en plus.
Parce que... Oui, 70 000, en fait.
Non, 70 000.
Mais parce que, justement, les mémoires, qui est également aspirée par cette vague des data centers, donc tout cet argent qui est en train d'être levé. Donc, je pense qu'Anthropic, effectivement, a pris de vitesse et va permettre d'aspirer quand même une grande partie et va prendre... C'est stratégique, c'est à la fois pour montrer qu'on est leader sur le fond, mais va prendre un avantage sur cette course de vitesse de l'investissement. Donc c'est assez remarquable ce qui se joue en ce moment.
Clément, ouais, et après Fred.
Juste, désolé Fred, juste avant, sur la partie bulle de l'IA, il y a des revenus, la question c'est, la bulle c'est sûr et certain qu'elle existe, la question c'est, est-ce que les revenus couvrent les investissements ? Et justement, quand tu vois les revenus et les montants des levées, tu vois bien que les montants des levées sont quand même 10 fois supérieurs. En revanche, tu te dis sur une projection de chiffre d'affaires futur et ça. Mais quand tu vois la bulle Internet, par exemple, il y avait des revenus. Google, ils avaient des revenus. Amazon, ils avaient des revenus. Ça n'empêche pas qu'à un moment, le marché passe par une phase de rationalisation où tout à coup, la valo des boîtes est divisée par 5. On remet un petit coup de rationalité.
Je rappelle quand même que la plupart des IPO de l'année 2000-2001, et malheureusement on est tous assez vieux autour de cette table pour s'en rappeler, les revenus qui venaient d'Internet, c'était quelques centaines de milliers, millions d'euros. Là, on parle de 7 à 45 milliards.
Mais quand tu regardes, les investissements n'étaient pas du tout du même ordre non plus. Certes. Et en fait, la décorrélation reste exactement la même.
Là, moi, ce qui me frappe, c'est que là, aujourd'hui, où est-ce qu'ils gagnent vraiment de l'argent? Si j'en sais pas sur les abonnements et tout ça, ça va être sur le compute. On voit hein, Mistral, ils leur tardent. Il y avait leur journée la semaine dernière. Ils leur tardent. C'est pas les contrats qu'ils ont avec les entreprises aujourd'hui, parce que quand on voit les contrats, c'est beaucoup de des projets très verticaux. Alors super, hein, c'est parfait. Mais on voit qu'ils attendent impatiemment.
Oui, mais c'est pas le gros du business.
D'avoir leur gros data center qui vont tourner à plein régime pour avoir tout ce compute. Et là aujourd'hui, c'est un peu ça, un peu Anthropic, c'est ça, c'est avoir cet argent. Et aujourd'hui, l'argent qu'ils récoltent, il y a un gros écart quand même entre l'argent qu'ils investissent, le vrai chiffre d'affaires à côté, et le vrai chiffre d'affaires de logiciel, et puis après le chiffre d'affaires compute. Et c'est ça qu'il va falloir regarder. Après, je trouve que moi, côté, si on regarde un peu les atouts pour OpenAI, donc croissance hors norme, enfin ça, ils
OpenAI ou Anthropic?
Anthropic, pardon. Croissance hors norme.
Parce que là, il faut faire attention.
Positionnement. Non, mais ils ont pris un positionnement très vite sur les entreprises, ce qui est pas mal, alors qu'OpenAI, on sent qu'ils essaient de tourner la barre, mais ils se disent, on aurait dû y aller sans doute un peu plus vite. Des partenaires stratégiques qui s'appelle Google, Amazon. Voilà, on est quand même bon, même si les autres ont Microsoft, eux ils ont Google, Amazon. Puis c'est bien sérieux avec OpenAI, avec Microsoft, c'est un peu l'enfant terrible. On a besoin de redresser de temps en temps. On a une IA responsable. Enfin, c'est comme ça qu'ils le vendent, Anthropic.
C'est comme ça.
C'est l'image qui donne.
Se sont positionnés de manière très maligne.
Les risques pour OpenAI, parce qu'il y en a quand même, c'est qu'aujourd'hui la valorisation, pour Anthropic. Décidément, la valorisation, elle est quand même délirante. La dépendance quand même à ce calcul, hein, faut voir, il faudra qu'il y ait des GPU qui arrivent pour continuer à rentrer du business. La concurrence quand même, hein, en face, c'est OpenAI, Google Gemini, enfin il y en a d'autres qui vont arriver. Puis même sur des petits marchés, tu as plein de petits acteurs qui arrivent, des startups. Tu as une pression sur les prix. On ne sait pas où on va avec les prix quand même aujourd'hui. Hein. On nous parle du prix du token. Alors on dit, ah, c'est 0,7$. D'autres disent, c'est 70$. On entend les entreprises qui disent aujourd'hui, attendez, on a Microsoft qui a coupé l'accès à Cloud.
Ouais, ouais. Copilot qui vient de dire, finalement c'était un abonnement, mais maintenant on va facturer au token.
Ouais.
Et quand tu as viré tes devs et quand tu dois maintenant
quand tu as un développeur qui a fait tourner 10 000 tokens dans la journée à 0,7$ ou à 1,7$, mais quand il y a un développeur, mais quand ils sont 200, tout d'un coup,
ça commence à faire beaucoup.
On va siffler un peu la fin de la partie, donc la pression sur les prix. La partie réglementaire, on n'est pas rentré là-dedans, mais est-ce qu'il peut se passer aussi quelqu'un qui va dire, attendez, vous voyez ce qu'a dit le pape, machin, on va commencer un peu à revoir un peu tout.
Il y a d'ailleurs une déclaration de sénateur américain aujourd'hui qui disait le hamburger américain est plus réglementé que l'IA. J'ai trouvé que la phrase assez percutante.
Mais tu vois, donc, on voit vraiment qu'il y a la partie, les atouts, hein, qu'on le sent, mais il y a quand même quelques risques, et quelques risques que l'on peut attribuer aussi à OpenAI, que l'on pourra attribuer aussi à SpaceX, même si SpaceX avec X à l'intérieur, c'est plus général, puisqu'il y a l'espace, on en reparlera tout à l'heure. Mm-hmm. Mais voilà, c'est intéressant de regarder comment ça va se comporter. Et le premier, alors, il y a peut-être la prime au premier, mais il y a peut-être aussi le risque du premier qui peut un peu ralentir les investisseurs. Et puis, qu'est-ce qui va rester à tous les autres? Moi, je suis une petite start-up, je vais lever des fonds l'année prochaine. Je me dis, je vais lever des fonds l'année prochaine en IA. Je me dis, attends, qu'est-ce qui va me rester, moi aussi?
Mais c'est la partie super intéressante de cette levée, c'est la transparence. Parce qu'on est une boîte cotée. Quand tu veux être coté,
les gens ne se rendent pas compte. Ils n'ont pas donné leurs chiffres.
Mais ils vont être étudiés du sol au plafond. C'est-à-dire que les gens ne réalisent pas forcément que quand tu veux rentrer en bourse, tu déposes tes comptes, ils deviennent publics, etc. Mais surtout, ils sont audités dans tous les sens. C'est pas, tu vois, on va voir tous les candidats de la présidentielle qui vont débarquer en disant « Bon, mon programme, il va y avoir 37 milliards d'économies. » Hop, allez, c'est parti, personne ne vérifiera jamais, on s'en fiche. Là, c'est pas ça. Là, t'as KPMG qui va débarquer, qui va envoyer 400 mecs dans les locaux, ils vont regarder tous les papiers, et tu vois, c'est hyper intéressant. SpaceX, on a déjà, par exemple, vu la semaine dernière que, ou je sais plus quand exactement, on a parlé de leur document S1, là. Attends, vous avez un deal avec Anthropic, et vous payez 15 milliards par an pour avoir accès à 22 000 GPU SpaceX. D'accord. Et c'est combien de temps de préavis pour de votre côté pour résilier? À 90 jours. C'est-à-dire que potentiellement, à l'échelle de l'IA, c'est rien du tout pour se fournir en semi-conducteurs, en GPU, etc. C'est-à-dire que potentiellement, à 90 jours près, Anthropic se retrouve avec 22 000 GPU en moins pour faire tourner sa puissance de calcul, etc., etc. C'est des faiblesses qui vont apparaître de partout. C'est pareil, on parlait des comptes. Est-ce que votre ARR, c'est un vrai ARR, vos revenus, ou est-ce que c'est boosté par vos deals avec les gros cloud providers en circuit fermé? On va découvrir toutes les faiblesses potentiellement structurelles de ces candidatures.
Oui, en parallèle, on voit aussi que ces entreprises se sentent aujourd'hui suffisamment fortes.
Oui.
Et c'est le cas pour SpaceX. Ça va être pour SpaceX, où encore beaucoup de gens considéraient Starship pendant longtemps comme une espèce de rêve. Mmh. Aujourd'hui, en fait, l'IPO crédibilise presque le projet industriel.
Ils mettent pas tant que ça de leur capital en plus sur le marché. Et il faut voir que pour Anthropic, tu sais qu'Anthropic, s'ils réussissent leur... Non, c'est SpaceX. Si SpaceX réussisse son entrée en bourse, il y en a un qui empoche près plus de 100 milliards de dollars, c'est Google, qui avait mis 15 milliards au début. Enfin, il y a plein... C'est ça qui est marrant. Et moi, je pense aussi pour Anthropic, quand tu montes comme ça, quand tu entres en bourse, t'as intérêt aussi de sacrément verrouiller tes meilleurs ingénieurs. Là, il faut plus d'engueulades à Sutskever chez OpenAI et tout ça. Tout le monde est dans le même bateau, les gars. On est parti pour 5 ans, on est tous ensemble et j'en veux pas un qui s'en va. Hein.
Voilà pour... Oui. Ouais, non, tu voulais truc, pour terminer sur Anthropic, après on enchaîne.
Hyper intéressant sur les valeurs. OpenAI s'est positionné comme l'IA responsable, sécurisée, etc., etc. Il y a quand même un petit paradoxe là-dedans, qui est ils ont une... Qu'est-ce qu'il y a?
C'est Anthropic qui s'est mis comme l'IA responsable.
Tu m'as filé le virus là.
Non mais c'est dingue.
Anthropic s'est positionné comme ça. En plus avec OpenAI, c'est un gros lapsus. Il y a quand même un paradoxe, c'est-à-dire que soit ils ont pour ça une structure juridique super solide qui est très différente de celle d'OpenAI, on va pas rentrer dans le détail, mais qui est censée justement leur permettre de protéger ça. Le premier conseil que va leur donner JP Morgan, c'est de dire « Non mais vous allez me simplifier ces trucs, sinon ça va faire peur à tout le monde. » Soit ils acceptent de simplifier et à ce moment-là, ils se décrédibilisent et c'est leur produit d'appel, c'est leur positionnement marketing, y compris vis-à-vis des entreprises, c'est pas juste pour la population. Soit ils maintiennent ça, t'as quand même intérêt parce que t'as signé un papelard avec le pape. Quand tu t'es affiché avec le pape en disant on va faire ça, t'as quand même intérêt à tenir un peu ton truc. Et à ce moment-là, est-ce que ça risque de faire peur aux investisseurs?
C'est-à-dire le pape plus fort que Deloitte. Pas mal, ça.
Dingue,
ça, j'espère.
KPMG.
Non, mais tu vois, ils ont un paradoxe. Est-ce que s'ils réussissent à faire fuir les investisseurs? C'est-à-dire que il y a une inconnue.
Et croyez-moi, des IPO, on va en parler hein, là dans les semaines et les mois qui viennent entre OpenAI, évidemment SpaceX, tu le disais, ça va pas se terminer comme ça. Dans l'actu, sujet un petit peu plus léger mais intéressant, vous savez que concernant Apple, il y a un monsieur qui a les informations en avant-première avant tout le monde, c'est Mark Gurman, qui est journaliste. Et moi, je suis fasciné par ce gars-là parce que toutes les informations qui sortent, les informations confidentielles d'Apple qui sortent, c'est lui qui les a. C'est fou.
Moi, je disais à François tout à l'heure, mais moi, je serais Tim Cook ou John Ternus aujourd'hui, mais je mets un détective privé.
Oui. Non, mais moi, je l'enfermerai, en fait.
Je focus sur lui, je le suis partout, je mets des trackers, je surveille toute sa famille.
Je pirate son iPhone pour écouter ce qu'il dit. On plaisante, bien sûr. Dernière petite information concernant Mark Gurman, qui en dit un petit peu plus sur la stratégie qu'est en train de mettre Apple en place concernant les lunettes connectées. Déjà, on apprend que c'est une priorité absolue chez Apple. Voilà. Que ce soit Tim Cook, qui va bientôt partir, ou John Ternus, qui est le nouveau CEO, c'est la priorité. Ils veulent prendre leur temps. Visiblement, ça devait sortir cette année. Ils préfèrent décaler d'une année pour avoir un produit aussi puissant, et c'est eux qui le disent, que l'Apple Watch. Car ils veulent véritablement recréer le succès de l'Apple Watch avec les lunettes connectées. Et moi, je trouve ça très intéressant parce que au début, moi, je me souviens quand les Apple Watch
des montres aujourd'hui.
Voilà, les Apple Watch étaient sortis, on se disait mais Apple n'a aucune légitimité dans les montres. En fait, tout le monde aura toujours sa Swatch ou sa Rolex. C'est pas trop le problème du prix. C'est parce que tout le monde a l'habitude d'avoir sa propre marque de montre. Et en quelques années, Apple a mis tout le monde d'accord, et c'est aujourd'hui, tu le disais, le premier vendeur de montres au monde. Mmh. Et en fait, Apple aimerait bien réitérer ce scénario avec les lunettes. Et je voulais avoir votre avis là-dessus. Est-ce que c'est une possibilité ? Est-ce que c'est aussi un marché un peu différent quand même, qui n'est pas aussi évident pour Apple que les lunettes ? Peut-être André pour commencer, et puis après Clément ou Fred.
Alors, il y a quand même une grande différence, c'est que... pour le coup, la Meta a pris une longueur d'avance. Donc, ça serait un peu plus compliqué parce que Meta a réussi avec ses lunettes connectées avec Luxottica.
Ray-Ban Meta.
Ray-Ban, donc. C'est évidemment une prouesse software, mais c'est en fait, j'ai beaucoup parlé avec certains qui ont travaillé sur le projet, une prouesse hardware, parce qu'ils ont réussi pour la première fois à faire des lunettes où l'équilibrage entre l'endroit où il y a la batterie, les capteurs, l'électronique, etc., est extrêmement bien
équilibré, réfléchi.
Et donc on n'a pas ce sentiment là, on voit la Vision Pro là derrière, on n'a pas du tout ce sentiment de lourdeur qu'on avait sur toutes les, donc ça c'est quand même une vraie référence. Après, le marché est gigantesque hein, juste le marché des lunettes c'est 200 milliards de dollars, donc c'est quand même colossal. Ouais. Et dernière chose, tout le monde est à la recherche depuis longtemps de cette interface naturelle qui aujourd'hui est permis par la même puissance de calcul et la miniaturisation qu'on voit dans tout, d'avoir directement finalement quelque chose qu'on connaît bien dans l'automobile ou dans l'aéronautique, que je connais aussi un peu, c'est, on appelle ça la visée tête haute, où en fait pour les pilotes on a une surimpression sur le cockpit de l'information, on a ça dans quelques voitures aussi, et c'est ça le coup que veut rejouer Apple. Donc je crois qu'ils ont évidemment l'expérience du bracelet et ils essayent de réitérer ce succès du poignet.
Et ils ont l'expérience des technologies qu'ils ont développées pour le Vision
absolument.
Pro.
Absolument.
Oui, c'est pour ça qu'on vous montre derrière le Vision Pro, parce
mais il y aura un vrai sujet de miniaturisation et de hardware qui est pas gagné.
Voilà, si vous êtes avec nous derrière moi, il y a le Vision Pro. Pourquoi ? Parce que au-delà de ces lunettes, Apple n'a pas abandonné le projet Vision Pro et essaie de sortir dans les années qui viennent un produit plus abordable, plus fin, plus léger, qui pourrait là véritablement apporter.
Et apparemment, il a sabré
cet affichage CTO dont tu parles.
90% de ses budgets marketing sur la Vision Pro. Donc en fait, il y croit plus trop quand même.
Hein. Ouais, mais ça serait.
Il le pousse plus.
Malgré tout, je pense qu'il garde un peu en veille l'OS qu'ils ont mis en place parce que la technologie n'est pas encore prête pour miniaturiser tout ça et peut-être que ça arrivera demain. Clément, quel est ton point de vue ? Parce que moi, je trouve qu'il y a un truc hyper intéressant, c'est que malgré tout, les lunettes, c'est un marqueur stylistique hyper important.
Mais la montre aussi.
Les lunettes, tu les as sur ton nez.
Oui,
okay, mais la montre, ok, c'est statutaire, etc. Mais tu vois, il y a plein de gens qui prennent une montre bas de gamme simplement pour avoir l'heure parce que c'est pratique pour eux. Tu vois, là, la paire de lunettes, c'est vraiment quelque chose, c'est un marqueur, je dirais, statutaire, stylistique, important, tu vois.
Sachant que les Ray-Ban aujourd'hui, ils s'attaquent plutôt aux gens qui n'ont pas besoin de lunettes. C'est ça qui est assez marrant. C'est que le marché qui reste à conquérir, c'est le marché des gens qui.
Mais il y a plein de gens qui achètent des Ray-Ban Meta. Il y a plein de gens qui achètent des Ray-Ban Meta parce que c'est des Ray-Ban. Et que finalement, elles sont connectées, c'est un plus. Moi, j'ai des potes, ils ont des Ray-Ban Meta, mais ils ont oublié de les recharger, tu vois ce que je veux dire. Mais en fait, ils s'en servent comme de lunettes, finalement.
Les miennes sont cassées, je continue à les porter parce qu'elles sont extrêmement agréables.
Et voilà, voilà.
C'est là qu'on voit qu'il y a de la technologie derrière, mais en termes de marché de masse, Meta est très très loin avec les Ray-Ban. C'est d'abord un gigantesque coup marketing. C'est-à-dire, je crois que sur un an glissant, ils en ont vendu 7 millions. C'est très bien, c'est que dalle, tu vois. Non, moi, il y a un truc qui m'énerve, c'est que le Vision Pro, j'entends un narratif depuis ce matin qui est « Ah, mais Apple s'est planté dans le Vision Pro, là où Ray-Ban et Meta ont réussi dans les lunettes. » C'est quand même pas du tout le même usage.
Non, c'est pas
le même
truc.
C'est des technos qui vont être utilisés, qui sont un peu similaires, mais c'est quand même dire « Ah, regardez, Wembanyama va en finale alors que Dupont est pas en finale NBA. » Oui, c'est pas le même match, c'est pas le même sport. Ça a rien. Je veux dire, ça, c'est un truc que tu mets dans un contexte pour faire de la créativité ou de l'immersion. Les lunettes, c'est un truc que tu portes tout le temps pour avoir une assistance. Bon. Mais ça m'inquiète pas trop qu'Apple soit en retard. Paradoxalement, le retard pour moi chez Apple, c'est bon signe. Là où ils m'inquiètent, c'est quand ils essaient d'avoir un coup d'avance sur le marché, parce que c'est pas leur ADN. Si tu regardes l'Apple Watch, elle sort un an et demi après la Samsung Watch. Et tu vois, venir, c'est pas pour ça que derrière ils ont pas terrassé le marché.
C'était en 2015, hein, l'Apple Watch.
Ouais, 2015, et je crois que c'est début, c'est avril 2013 ou quelque chose.
Oui,
2013 pour Samsung.
Mmh, ouais. Et souvent, Samsung essuie les plâtres, hein, d'ailleurs.
Bien sûr. Et la manière sur les écouteurs, Samsung sort ses écouteurs bien avant les AirPods, et puis ça marche. Parce que, un, c'est Apple, donc ils ont une image de marque, machin, et de deux, ils sortent des très bons produits.
Ils vont réitérer ça sans doute avec l'iPhone pliant. Hein. Je rappelle que Samsung, ça fait 10 ans qu'ils sortent un téléphone pliant.
Ils arrivent une fois que l'usage existe, et là, ils tabassent tout. Donc, je ne suis pas très inquiet. Après, est-ce que ce sera vraiment un marché très différent des montres? À l'époque, on disait que rien ne pouvait remplacer une vraie montre, et que c'était moche, et que de toute façon, ça faisait un écran en plus, pas nécessaire. On aura pour moi exactement les mêmes remarques avec les lunettes. Moi, je pense qu'il n'y aura pas une différence majeure et que ça va s'adopter très bien de la même manière. Je ne sais pas si c'est pour le plus grand bien de l'humanité, mais en tout cas, ça existera. Je ne vois pas de différence.
Et d'après ce que j'ai compris, Fred, en plus, Apple essaie de se positionner sur du haut de gamme avec ses lunettes.
Oui, sans doute.
C'est-à-dire qu'on n'aurait pas du plastique léger, on aurait des matériaux assez nobles. Assez quali, en fait. Mais Apple n'est pas un fabricant de lunettes. Tu vois.
Oui, mais
est-ce que si t'es prêt à porter sur ton nez des lunettes Apple qui...
Le vrai pari, c'est ça. C'est l'intelligence de Meta, ça a essayé de s'associer à
l'Utopia. Parce que je pense que technologiquement, ces lunettes sont formidables. Tous les produits tech d'Apple sont vraiment de bonne qualité. Mais est-ce qu'elles seront assez belles pour qu'on puisse les chausser?
Mais justement, quand Mark Grumman dit, le défi d'Apple, c'est faire comme la montre, transformer un objet un peu traditionnel en objet technologique de désir et tout ça. Il y a un mot que vous n'avez pas prononcé, c'est la partie santé. L'Apple Watch, pourquoi elle s'est aussi bien développée, c'est qu'aujourd'hui, on voit, alors elle a sauvé des vies, des machins, mais les gens, beaucoup de gens qui commencent à s'habituer, ben ils la portent parce que la santé, parce qu'elle, elle, aux États-Unis, les assureurs la donnent gratuitement pour ceux qui donnent leurs données. Enfin, il y a tout un ensemble de choses. Et les lunettes, ça va être pareil parce qu'aujourd'hui, Essilor Luxottica, ils se définissent comme une medtech. Alors correction des yeux et tout ça, mais ça va être aussi des appareils pour mieux entendre. Ça va être aussi des petits capteurs qui vont les regarder dans les yeux si on n'a pas du diabète. Enfin, il va y avoir plein de choses. Et c'est ça où ils sont très forts dans la miniaturisation. Et je pense que si Apple est en train d'attendre, c'est qu'ils veulent pas que ce soit de simples lunettes. C'est joli, j'écoute ma musique, je téléphone, je pose des questions, ça s'affiche et partout. Parce qu'ils veulent aussi cette partie santé et se dire tiens là, il y a sans doute un truc à prendre. On va faire le lien avec la montre. Faire le lien avec le téléphone, voilà, et on va être dans cette...
Ouais, non, mais
et je pense que la santé...
Mais t'as raison, mais il faut que ce soit des lunettes que tu as envie de porter.
Mais ça, oui, bon, mais c'est
tu vois ce que je veux dire.
Les gens ne portent pas tous des Ray-Ban, hein, t'as des gens qui...
Je trouve qu'il y a quand même une différence entre une montre, tu vois, il y en a certains... pour beaucoup, c'est un marqueur, tu vois, mais il y en a certains qui portent des montres simplement... Parce que voilà, ils ont l'habitude d'en avoir une.
L'enjeu, ça va être
que là, les lunettes.
Mais ça va être la miniaturisation, parce que tu as bien vu quand on est au CES, on voit les lunettes que font certains Chinois. Ah oui, elles ressemblent à des Ray-Ban, mais les rares sont comme ça. Elles ont un poids, elles sont pas bien, comme tu disais, proportionnées, équilibrées. Les écouteurs, tout. On a des impressions d'avoir deux gros trucs derrière les oreilles. Voilà, et je pense que le défi sera là. Autre défi aussi, c'est les brevets sur. Parce que là, Essilor Luxottica, et c'est le génie. Oui, enfin quelque part la bonne idée de Mark Zuckerberg d'aller voir Essilor Luxottica, c'est tous les brevets sur les verres.
Bien sûr.
Et c'est Luxottica, ils ont plein de brevets sur les, alors les verres correcteurs, mais les choses qu'on va pouvoir afficher dans les verres. Enfin, ils ont plein de technologies.
Ouais, mais je suis sûr qu'Apple travaille avec un verrier hyper connu.
Bah, c'est qui, il y a Zeiss.
Zeiss, bah, mais tu sais que ils ont un partenariat, je crois, avec Zeiss sur le Vision Pro.
Sur le Vision Pro.
Non, mais pour que tu puisses moduler en fait quand
mais certains de leurs appareils photos,
malgré tout, avoir un Vision Pro.
Certains de leurs appareils photos sont pas avec d'un grand justement avec Zeiss ou
non pas Apple.
Mais tu vois, mais je suis sûr qu'ils vont évidemment ils vont pas y aller seuls dans ces histoires de verre. Est-ce qu'on compte l'historique qu'ont des Zeiss ou des Luxottica sur enfin tout ce qui est sur les verres, les bronzés, les machins.
L'impact, il est quand même fascinant parce que pour faire un tout petit peu de sortir un petit peu du champ, il faut quand même se rappeler que la vision et l'audition, pourquoi est-ce que c'est aussi proche du cerveau? Parce que c'est justement nos deux sens, parmi nos cinq sens, certains en ont six, qui ont besoin de la latence la plus faible. C'est pour ça que l'évolution, tout au fur les millions d'années qui nous ont précédés, ont ramené
au plus près de la machine, en fait.
Au plus près de la machine. Et donc, s'ils arrivent à ce pari, on vient de parler d'intelligence artificielle en permanence, c'est là où on aura une intégration au plus proche. Donc on est quand même dans un monde quasiment bionique, pour ceux qui se rappellent de Super Jimmy de nos enfances. Enfin, c'est vraiment ça.
Steve Austin.
Avec ce bruit métallique qu'on connaît tous. Donc, je pense que là, il y a un côté presque un peu anthropologique qui est très intéressant.
T'as pas connu, toi, Steve Austin?
Steve Austin, l'homme qui valait
le milliard. Ça, c'est dur, André.
Vieux, là.
Ça, c'est très, très dur.
Ça, c'est dur,
ouais. Steve Austin, qui était le héros.
J'ai connu les Mystères de l'Ouest. C'est un peu.
C'était la même époque.
T'as dû regarder ça en DVD, je pense, les Mystères de l'Ouest.
Non, ça passait sur France 3. Il y avait un militaire parachutiste qui a un accident et en fait, on lui remplace ses deux jambes par deux jambes.
Non, mais j'ai une histoire. Le générique, tu le vois sur la table d'opération. J'ai l'idée.
Et 3 milliards, c'était pas cher d'ailleurs quand on voit tous les parachutistes aujourd'hui. On aurait dû acheter à l'époque.
Ouais, c'est vrai. Je suis sûr que l'Optimus en développement coûte plus cher que 3 milliards.
Des yeux, des machins.
Bon, vous savez quoi, on va rester dans cet univers d'objets connectés bourrés d'IA, puisque après cette petite pause, on s'intéressera à un autre projet, celui de Meta, qui justement, et on l'a évoqué il y a un instant, cartonne avec ses Ray-Ban Meta, mais aurait dans ses tiroirs un projet de collier IA. On vous en parle dans quelques instants. Toujours André Losgood-Pietri qui est là, Clément David et Frédéric Simotel. Petite pause et à tout de suite.
Tech & Co, la quotidienne sur BFM Business.